Et c'est l'heure des pérégrinations néo-rétro-culturelles. Et où est-ce qu'elles nous emmènent cette semaine, mon cher Camille?
Alors aujourd'hui, on part un peu en Suède, un peu aux États-Unis et un peu en Asie. Une sacrée empreinte carbone, tout ça.
Ouais.
Et tout ça pour parler d'un type qui a acquis le statut de demi-dieu en Asie, de mégalo surdoué aux US et de parfait inconnu en Europe.
Ah bon?
Ouais. On va aller en 1963. Donc en 1963, c'est la grande évasion dans les salles. Bref, un drôle de paroissien. Dans les transistors, Françoise Hardy nous parle d'un temps de l'amour. Petula Clark, elle a un autre point de vue. Vilaine fille, mauvais garçon. Une seule réponse de Richard Anthony Chin Chin.
C'est vrai.
Le petit gars, il s'appelle Lars Johan Yngwi Lannerback. Je parle pas très bien le suédois, vous m'excuserez.
Effectivement.
Il est né le 30 juin à Stockholm, dans une famille de musiciens sans grande prétention. Il a une enfance qui est remarquablement normale, mais il y a un événement qui va changer sa vie. Pour ça, on va aller en 1970. En 1970, c'est Podan et l'enfant sauvage dans les salles, pendant que Sardou nous dit « J'habite en France, Black Sabbath réagit, paranoïde. » Mais pas de quoi défriser Rick Azaray et son balapapa. À la télé, c'est Postscriptum avec Michel Pollack. Et oui, 1970, bah c'est ça.
Hendrix.
Voilà. Et 1970, c'est aussi le dernier glas de Jimi Hendrix. C'est en hommage, du coup, que le jeune Lars, il va décider d'apprendre la guitare. Donc sa mère va lui offrir sa première guitare acoustique, ce qui était déjà extrêmement bien, en fait, en Suède à l'époque. À l'époque, en Suède, c'est compliqué de se faire venir des instruments ou ce genre de matériel, quoi. Au bout de 2 ans à travailler, cette fois-ci, c'est son père qui comprend qu'il y a peut-être un truc à creuser et qui, du coup, va offrir sa première guitare électrique à son fils de 9 ans. Alors à l'époque, en Suède, il n'y a vraiment pas beaucoup d'albums, mais parmi ceux qui passent la frontière, bah, y en a un, et l'un, c'est ça. Salut, tu dois l'avoir.
Il attend les paroles.
Ah, tu peux y aller, est-ce qu'il y a l'intro, en tout cas.
Je sais pas.
Ah ouais?
On dirait Led Zepp, mais...
Ah, c'est pas très loin, c'est pas très loin, c'est pas Led Zepp. C'était là avant.
C'était avant Led Zepp?
Ouais.
Liner Scannerd?
Non.
Johnny Hallyday.
Ah, de ça aurait pu. Hein.
Je tente.
Mais raté, c'était Deep Purple.
Ah oui, d'accord.
Ouais, alors ça, c'était la chanson Highway Star. Deep Purple, du coup, est son album Machine Head. Un album que le jeune Lars va écouter encore, encore et encore. Et surtout, il va jouer à l'oreille jusqu'à reproduire entièrement, parfaitement, le jeu de Ritchie Blackmore. Il a 9 ans.
Ah, ok. Voilà. Bah c'est pas mal.
Oui, ça va, c'est pas dégueu. Bah,
écoute-moi, à 9 ans, je faisais quoi? J'étais où?
Voilà. Moi, j'y arrive pas encore. Hein. Donc,
c'est moins bien que ta personnalité de la semaine dernière qui avait appris toute seule le piano à 4 ans.
C'est vrai, mais il va pas dans la même direction, lui. Une obsession qui va d'ailleurs beaucoup influencer dans ses compositions à l'avenir. Quoi qu'il en soit, le petit Lars, à 10-11 ans, bah, il est déjà guitariste émérite. Et du coup, bah, quoi, quand t'es guitariste, qu'est-ce qu'il y a de mieux que former un groupe? Donc c'est comme ça qu'il va se mettre à jouer avec plein de musiciens qui sont généralement beaucoup plus vieux que lui. Mais à 10-11 ans, il a déjà un sacré caractère et il se retrouve à virer de ses groupes des musiciens qui ont déjà plus de 10 pitches de plus que lui. À 12 ans.
Ah bah c'est pas les gosses de 12 ans de maintenant. Hein.
Ah bah non, celui-là il sait où il veut aller et il faut que ce soit bien fait, sinon ça va pas. Au milieu des années 70, il va s'intéresser à un certain violoniste italien qui devrait vous rappeler quelques petits souvenirs.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Ça, c'est encore la grande question.
Alors, Paganini.
Ouais, bravo. Il va s'intéresser à Niccolò Paganini et il va découvrir du coup le génie soliste de ce type-là. Puis, il va élargir ses connaissances avec du Bach et du Vivaldi avant de se passionner pour un musicien qui est déjà un petit peu plus connu du grand public et qui est membre d'un certain groupe allemand. Celle-ci, elle date un petit peu après. Je triche, en
vrai. T'as moyen de booster le son ou pas, mon cher?
Je peux monter le son, ouais.
C'est Scorpion. Ouais.
Bravo, c'est Scorpion, en effet.
Ah si, c'est une pub pour... Ah pardon, j'allais faire une...
aussi.
Time after time.
Oh, ah là, on a tout. Donc évidemment, c'est Uli John Roth, le guitariste du groupe Scorpion. En 1978, alors qu'il a 15 ans, le jeune Lars, il quitte l'école. Ils s'embêtent pas, là-bas ils peuvent. Hein. Il part travailler comme luthier dans un petit magasin de musique à Stockholm. Mais c'est là qu'il va découvrir les guitares scalopées. Alors comme Woody n'est pas là, du coup je vais vous faire l'explication moi-même. Mm-hmm. Pour les non-initiés, c'est des guitares dont on a creusé les cases pour faciliter le jeu en soliste.
Voilà.
Donc, selon la légende, il aurait lui-même scalopé la touche de sa Fender Stratocaster. Voilà, tout seul, comme un grand. Les années passent et l'art c'est toujours meilleur, mais il a beau enchaîner encore et encore les groupes, le succès il reste extrêmement localisé. Jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard un certain Mike Varney, qui est producteur américain et qui lui propose aussitôt de partir aux États-Unis pour rejoindre le groupe Steeler. Et Steeler, à l'époque, ça donnait ça.
C'est un peu Hard Rock FM.
C'est un peu Hard Rock FM, ouais. Le groupe est bien sympa, mais ça manque quand même grandement d'ambition. Et c'est comme ça que le désormais surnommé Ingui quitte le groupe pour pouvoir rejoindre Alcatraz.
C'est lui qui joue, là ?
Ah oui, c'est lui, ouais.
Ah ouais.
Là, ça va, il est encore, il y allait encore doucement. Voilà. Ingui trouve un peu plus d'espace pour affirmer son talent de soliste et s'en donne à cœur joie quand les chansons s'y prêtent. Toutes les chansons s'y prêtent pas, mais notamment Hiroshima, mon amour, elle s'y prête pour le coup. Il va jouer sur les albums No Parole from Rock'n'Roll et Life Sentence avant de finalement quitter le groupe. 1984, un été d'enfer dans les salles SOS Phantom ou Supergirl, to be or not to be. Dans les bacs, Cyndi Lauper avec Time After Time, réponse de Van Halen, Jump. Mais quand on est chez nous, c'est France Gall, débranche. Sur Canal+, c'est l'arrivée de la série d'animation japonaise Sherlock Holmes, dont l'un des réalisateurs n'est autre que Hayao Miyazaki. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ça y est, Ingui, bah, il en a marre de jouer dans des groupes. Maintenant, lui, il veut son groupe à lui. Et c'est comme ça qu'il va fonder un groupe qui s'appelle Rising Force. Il sortira très très vite un premier album qui s'appelle Ingui G. Malmsteen's Rising Force. Et comme quoi, tu te plaques, ma chronique, le nom est long, mais ça va.
Ouais,
hein.
Mais tu, pour ça, mais tu t'inspirais des plus grands, toi.
C'est pour ça qu'il va produire lui-même, parce que pourquoi pas, et qu'on reconnaît généralement à la pochette avec une guitare en flamme. À l'époque, ça donnait ça.
Classique ça.
Ah, il fait les deux. Mais il switch rapidement, généralement de l'un à l'autre. C'est la chanson la plus connue, celle-ci, c'est Black Star. Particulièrement inspiré par la musique classique, dont il avait fait lui-même quelques arrangements, il pose les bases d'un tout nouveau genre sur la scène hard rock ou metal, qui est le metal néoclassique. Un album intemporel qui va inspirer quand même toute une génération de virtuoses de la guitare, ainsi que les scènes de power et de speed metal. Avec ce premier album, la carrière solo d'Ingui, elle est assurée. D'ailleurs, le groupe qui au début s'appelait Rising Force va vite se retrouver sur renommé The Ingui G. Malmsteen's Rising Force.
Ah bah oui, puis, faisons simple. Hein.
Voilà, puis tout simplement Ingui Malmsteen, parce qu'en vrai c'était quand même vachement chiant.
Bah oui, quand même.
Finalement, de toute façon, c'est quand même lui. S'en suivra 25 ans de carrière, enchaînant frénétiquement de tournées mondiales et plus d'une vingtaine d'albums à succès, au cours desquels il va quand même faire varier son style du metal néoclassique, du coup, qu'il a créé, à un style un peu plus progressif, à du speed metal ou même à du hard blues. Mais le gamin de 12 ans qui virait les membres de son groupe, qui était, je l'ai jamais très très loin en fait. Et peu importe le succès, Ingui, il est toujours extrêmement exigeant, d'abord avec lui-même et surtout aussi avec les autres. Donc il obtient très très vite la réputation de quelqu'un d'assez insupportable, ce qui lui vaut de côtoyer dans son groupe pas moins de 9 chanteurs, dont lui-même quand il arrive pas à recruter, 12 batteurs, 13 bassistes, dont lui-même aussi quand il peut pas faire autrement, et 5 claviéristes, pour un total quand même de plus de 40 musiciens.
C'est pas mal, mais c'est okay. Un orchestre en fait, mais sans c'est un orchestre.
Oui,
comment il fait pour être bassiste et guitariste en même temps?
Après il se débrouille. Sur les albums studio, tu peux faire ça.
Ah oui,
c'est un concert, bon, c'est compliqué. Tu fais sans, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est... Parfois, c'est plus compliqué que d'autres. Un petit peu de temps à démarrer.
Les gars sont derrière en train de jouer. Lancez, les gars.
Ah, là, c'est du hard rock symphonique.
Là, on passe encore à un autre niveau. Finalement, en 1997, il va se frotter à une sorte de consécration ultime, mais partagé et fait un album de composition personnelle inspiré par Vivaldi avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Tranquille. Voilà, un excellent album qui sortira l'année suivante, donc en 98, sous le nom Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in EB Minor Opus 1 Millennium.
Pardon ?
Je me suis entraîné, hein.
Tu m'as perdu au deuxième mot.
Ouais, tu m'as perdu au début de ta chronique. Ah, excuse-moi.
Donc, le Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in EB Minor, Opus 1, Millennium.
Ok, donc un concerto pour guitare en, en mi mineur, et puis j'ai perdu après.
Voilà, et pour orchestre, parce que du coup il y a tout l'orchestre avec qui il écrit lui-même évidemment tout le reste. Hein. Une expérience très gratifiante qui est finalement plus proche du classique que du métal et qui retentera cette fois-ci en live en 2002 avec l'Orchestre Philharmonique du Japon. Parce que le studio c'était trop facile, du coup il fait ça en direct. Il parle d'une expérience amusante mais extrêmement effrayante dans laquelle il laisse l'orchestre l'introduire, puis il arrive au bout de 5 minutes, tranquillement, et il se fait un petit échauffement.
Ah, c'est stylé.
Encore un peu ?
Elle est pas accordée, je crois, je continue.
Et il s'arrête jamais, hein.
Coupette.
Voilà, c'était l'échauffement. C'est sa première apparition quand il arrive sur scène, il fait ça. Ça va. De tous les styles adoptés par Malmsteen, c'est sans conteste celui qui lui sied le mieux, grandiloquent à souhait et véritablement surpuissant. D'ailleurs, Malmsteen obtient une notoriété grandissante au Japon, où il est un temps régulièrement invité pour présenter sa musique à la télévision. Il s'amuse d'ailleurs à prendre sa guitare en interview et à improviser quelques secondes de classique, de métal ou de blues, ce qui fait généralement son petit effet aux journalistes. Son style se rapproche d'ailleurs assez naturellement du visual kei et sans conteste une des inspirations principales des meilleurs guitaristes du style, comme par exemple le guitarero Isaki. C'est sorti déjà pas mal d'années après, hein, je précise. finalement. Les salles prennent eau, le monde de Nemo, aux pirates des Caraïbes. Dans les bacs, Pani rêve de sa liberté de penser et Jennifer lui répond « Donne-moi le temps ». Réponse universelle de DJ Bobo, Chihuahua. On peut pas tout avoir. Hein. À la télé, c'est la fin de Un gars, une fille, mais le début de Code Lyoko. Grande époque.
Mmh. Oui.
Jusque-là, plutôt habitué à assurer en solo, on propose à Yngwie de rejoindre le supergroupe G3 avec Joe Satriani et Steve Vai. Une sacralisation qui lui rend enfin ses lettres de noblesse, le mettant au même niveau que deux guitareros bien plus connus que lui, que ce soit aux US ou aux États-Unis. Ou en Europe, pardon. S'il ne retentera pas l'expérience, il rejouera quand même de nombreuses fois avec Steve Vai, qui est visiblement le seul avec qui il arrive à s'entendre sur le long terme. Voilà, pas de chance. Après, Steve Vai s'entend avec absolument tout le monde. Ça règle le problème. En 2007, c'est la sortie sur Xbox 360 du jeu Guitar Hero 2. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué au Guitar Hero ou pas ?
Vite fait, ouais.
Je crois pas.
Si, bon, dans des MJC, des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, généralement, ça tourne encore un petit peu, Guitar Hero. Il y a encore une petite commu qui traîne, ouais. Et ils ont fait en fait l'honneur à Malmsteen de donner à son nom une récompense. Voilà, celle d'avoir tapé 1000 notes successives. ça colle assez bien, finalement. En 2009, le Time, le magazine, le nomme 9e meilleur guitariste de tous les temps. Et en décembre de la même année, il va même reprendre Beat It en hommage à Michael Jackson, décédé juste avant. Quoi. Les années passent et Yngwie, il perd rien de son savoir-faire, malgré les problèmes de recrutement, toujours assez violents quand même. Hein. Et en 2012, ça donne ça. Voilà, c'est l'album Spellbound, un album instrumental dans lequel, comme il n'arrive pas à recruter, il s'embête plus, il va jouer quasiment tous les instruments tout seul.
C'est pratique, ça, au studio, t'en fais un, après tu fais l'autre.
Ouais, voilà, donc il va jouer la guitare, toutes les guitares de ce qu'il joue, la basse, il n'y a pas de chant, c'est au moins ça, la batterie, et il va jouer le synthé aussi.
Mais c'est lui qui fait le mix ? Oui,
il fait tout.
Ah oui, donc il est tout seul dans son studio, quoi.
C'est ça, il s'en va de plus maintenant.
C'est lui qui va vendre dans les magasins.
Hein. Si seulement tu l'aurais laissé faire, il l'aurait fait.
C'est lui qui aurait amené dans les boîtes aux lettres. Allez, hop, je vous le livre aussi, hein, si vous voulez. Hein. Je vous le mets dans le lecteur. Eh.
C'est le service, hein, bien sûr.
Évidemment.
Deux ans plus tard, il va entamer une nouvelle tournée qui s'appelle Guitar Gods 2014 Tour depuis la Pennsylvanie avec Gary Howe et Bulbafoot, qui était un ancien des Guns. faut bien savoir s'entourer une fois de temps en temps. Bah oui. Depuis, il continue les albums et les tournées avec World on Fire en 2016, Blue Lightning en 2019 et Parabellum en 2021.
Redis-nous quand est-ce qu'il a commencé.
Il a joué de la guitare ou
sa carrière ? Non, mais à vendre des albums, à gagner sa vie avec ça.
À vendre des albums solo, c'est en 84.
Ouais, bah, ça fait quand même pas mal une paire d'années.
Ça fait quelques années.
C'est
ouais.
Là, je me dis, attends, c'est quoi la date de départ déjà ? On est parti d'où ?
C'est fou parce que j'ai jamais entendu parler de lui, moi.
Ah bah, en Europe, par contre, son nom, c'est trop compliqué pour les gens. Du coup, ils ont give up ce type. C'est terrible. Aujourd'hui, Yngwie Malmsteen, il a 60 ans. Assurément l'un des meilleurs guitar héros, toute génération confondue. Il exprime par ses années de pratique deux choses. Premièrement, qu'il connaît son niveau, il sait à quel point il est bon, et ce qui le rend extrêmement exigeant, que ce soit avec lui ou avec les autres. Deuxièmement, à la différence de beaucoup d'autres guitar héros qui doivent continuellement lutter pour maintenir un niveau stable, Yngwie Malmsteen, il ne peut que devenir encore meilleur. Sa maîtrise de l'instrument, elle est telle que même en enchaînant des centaines et des centaines de notes, il n'atteint jamais sa limite. Si vous regardez notamment le concert live qu'il a fait en 2002 avec l'Orchestre Philharmonique du Japon, il est tranquille. Il ne force pas. Voilà. Il est juste peinard. C'est bien que relativement inconnu en Europe, sûrement en partie à cause de l'orthographe de son nom, hein, Yngwie Malmsteen a su en 20 ans devenir une véritable légende, peu importe la raison et peu importe l'endroit. J'ai écouté énormément de guitaristes différents dans ma vie, mais s'il y en a bien un qui, plus que tous les autres, m'a vraiment coupé la voix, et c'est bien le génie grandiloquent d'Yngwie Malmsteen.
C'est voilà. Beau. Moi, je dis que les carrières comme ça, mais toujours le maître mot de ces chroniques, c'est des stars inconnues qu'on devrait connaître. Des stars connues, mais qu'on ne connaît pas.
Qui sont extrêmement connues, mais que tu ne connais pas.
Exact. Au Japon, ce mec-là, c'est un demi-dieu. Hein.
Seulement
aux États-Unis, il est connu au même niveau que Steve Vai ou Satriani. Juste chez nous,
il est aussi connu que Satriani.
Ouais. Bah maintenant.
Ouais. Écoute, très bien.